liens terriennes et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour la saison 2 de l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Le fonctionnement reste le même, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Lors de la précédente émission, nous avons traversé les terres bretonnes, évoquant les légendes celtiques et le roi Arthur. Ce mois-ci, on oublie la magie. Pas de jeune fille pâle aux longs cheveux blonds, pas de chevalier en armure et de noblesse de cœur. Ce mois-ci, il y aura du sang, des cris, et il va falloir courir pour survivre. Car j'ai décidé d'ouvrir mon bestiaire fantastique, et ce qui va en sortir ne sera pas vraiment amical. Non, ça ne va pas, ça n'est pas ça du tout. Ah, ça c'est mieux, on est dans l'ambiance. Vous l'aurez compris, nous nous lançons aujourd'hui dans une chasse aux dinosaures. Mais notre proie pourrait vite devenir notre prédateur, et il faudra alors tenter d'échapper aux tyrannosaures et autres créatures affamées qui se lanceront à notre poursuite. Mais d'où viennent ces dinos ? Ces grosses bêtes tout en dents et en griffes ne sont-elles pas censées avoir disparu il y a des millions d'années ? Que nenni ! Certaines ont survécu et d'audacieux explorateurs les ont dénichées. Au programme aujourd'hui, des récits de voyages un peu particuliers et surtout très mouvementés. Notre premier explorateur est le professeur Challenger. Edward Malone, un jeune journaliste, le professeur Summerlee, un scientifique sceptique, ainsi que Lord John Roxton, un chasseur réputé, se joignent au professeur Challenger pour une expédition peu commune. Celle-ci, racontée par Arthur Conan Doyle en 1912, dans un roman intitulé « Le monde perdu », reflète l'engouement populaire du début du XXe siècle pour les dinosaures. Alors que dans les colonies d'Afrique occidentale et orientale, des squelettes de dinosaures sont découverts par des paléontologues, que des explorateurs, comme le lieutenant-colonel Percy Fawcett, partent pour l'Amérique du Sud afin de cartographier les endroits les plus reculés, Arthur Conan Doyle met en marche son imagination. Dans l'un de ses récits de voyage, Percy Fawcett décrit un haut plateau rocheux cerné de falaises abruptes. Il affirme même y avoir aperçu un étrange animal qu'il croit apparenté au Diplodocus. Avant de disparaître mystérieusement dans la forêt amazonienne, Fawcett rencontre Conan Doyle dont il est l'ami, et lui fait part de ses théories. Il est persuadé en effet que dans des endroits aussi inaccessibles et isolés que la Serra Ricardo Franco, cette chaîne de hauts plateaux située entre la Bolivie et le Brésil, des créatures disparues partout ailleurs auraient pu survivre. Il n'en faut pas beaucoup plus à Arthur Conan Doyle pour mettre en marche la machine à roman. L'histoire, très inspirée par les aventures de Percy Fawcett, relate l'expédition menée par le professeur Challenger et son équipe, partie explorer un haut plateau situé dans la forêt amazonienne. Au prix d'efforts considérables, les quatre hommes parviennent à accéder au plateau rocheux en question. Ils traversent un précipice grâce à un arbre abattu qui leur sert de pont. Mais l'un de leurs porteurs, qui poursuit une vengeance personnelle envers Lord John Roxton, détruit l'arbre après leur passage, leur interdisant tout retour. La petite équipe part donc à la découverte de ce monde perdu et s'y trouve confrontée à un bestiaire impressionnant. Les falaises abruptes qui bordent cet endroit l'ont en effet isolé du reste du monde. Des créatures préhistoriques y ont survécu, et la faune locale est pour nos explorateurs source à la fois d'émerveillement et d'effroi. Les iguanodons, plésiosaures ou mégalocéros côtoient les hommes-singes, les ptérodactyles et autres bestioles extraordinaires et parfois inamicales. Challenger et son équipe devront tenter d'échapper aux nombreux dangers de ce monde perdu et de trouver un moyen de le quitter pour rentrer enfin chez eux. Ce roman a rencontré un grand succès et a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et télévisuelles. Si certaines se sont contentées d'adapter librement l'histoire, d'autres sont de véritables hommages à Conan Doyle. On pourra noter par exemple l'influence du monde perdu sur des films tels que King Kong ou Jurassic Park. Pour finir, si les descriptions de certains dinosaures sont très éloignées de la réalité et peuvent aujourd'hui prêter à sourire, l'œuvre de Conan Doyle réussit à nous entraîner dans son univers mystérieux et l'on en vient à se demander ce qu'il est arrivé au lieutenant-colonel Percy Fawcett. N'a-t-il pas transformé la fiction en réalité ? N'existe-t-il aucun monde perdu sur Terre ? On sait combien les îles isolées sont chères aux scientifiques, avides d'y découvrir des espèces rares de papillons et de fougères. On sait que des milliers d'espèces demeurent encore inconnues, que les profondeurs des océans et les zones encore inexplorées de la planète recèlent bien des secrets. Alors, pourquoi pas des dinosaures ? On passe de Conan Doyle à Jules Verne et l'on part à présent en voyage au centre de la Terre. Ce roman, publié en 1864, reflète lui aussi l'intérêt croissant des Européens pour la préhistoire et les dinosaures. Comme à son habitude, Jules Verne opère un savant mélange d'aventure, d'anticipation et de données scientifiques. Il initie le lecteur à des sciences alors balbutiantes que sont la paléontologie, la géologie et surtout la cryptologie. Pour ce qui est des deux premières, dans lesquelles nous avons fait beaucoup de progrès depuis la fin du 19e siècle, vous connaissez, pas de problème. En revanche, peut-être que la cryptologie vous parle moins. Étymologiquement, il s'agit de la science du secret. Elle permet de coder et de décoder, de dissimuler par la cryptographie des secrets et de découvrir ces derniers par la cryptanalyse ou analyse des codes. Et le roman commence par là, lorsque le professeur de minéralogie, Otto Lidenbrock, achète un manuscrit original d'une saga islandaise et y découvre un parchemin codé, rédigé en caractères runiques. Le décryptage du code deviendra une obsession pour le professeur Lidenbrock. C'est son neveu, Axel, qui est également le narrateur, qui l'aidera à en trouver la clé. Le parchemin se révélera être un message d'un certain Arne Saknussemm, un alchimiste islandais du XVIe siècle, rédigé en latin mais écrit en runes. celui-ci affirme avoir découvert un passage qui l'aurait mené jusqu'au centre de la Terre, via l'un des cratères d'un volcan éteint d'Islande, le Sneffels, l'actuel Snæfellsjökull. Le professeur et son neveu partent aussitôt vers l'Islande. Ils engagent un chasseur, Hans Jekyll, qui leur servira de guide. Le voyage peut alors commencer et nos héros se font spéléologues, s'enfonçant dans les entrailles de la Terre. Un chemin qui ne sera pas sans danger. L'expédition arrive enfin au bord d'une étendue d'eau souterraine que le professeur nomme Mer Lidenbrock. Les trois hommes s'y engagent à bord d'un radeau. Ils manquent être coulés lorsqu'un ichthyosaure et un plésiosaure surgissent des eaux. Pris dans une tempête, ils sont finalement rejetés sur la côte, où ils vont découvrir une faune et une flore préservées depuis des millions d'années. Ils traversent une forêt de végétaux appartenant à une espèce très ancienne, aperçoivent un troupeau de mastodontes menés par un humanoïde géant et trouvent des vestiges de l'expédition menée au XVIe siècle par Arne Saknussemm. Il ne leur reste plus qu'à trouver le moyen de sortir de ce monde souterrain. Pour finir, si l'existence d'une mer souterraine, telle que Jules Verne l'a décrit, est réfutée par les connaissances géologiques actuelles, en revanche, la présence d'une grande quantité d'eau enfermée dans des roches solides est probable. On peut donc dire adieu aux mastodontes pesant tranquillement sur les côtes d'une mer souterraine. Mais qui dit eau, dit poisson, et une nappe phréatique profonde et très importante pourrait alors très bien renfermer des espèces disparues à la surface, ou même totalement inconnues. D'ailleurs, Jules Verne ne dément pas sa réputation de visionnaire et certaines données scientifiques de son roman, apparemment imaginaires à son époque, ont été par la suite confirmées. Ainsi, la grotte contenant des cristaux géants qu'il décrit appartenait à la fiction, jusqu'en 2000 et à la découverte au Mexique, dans les mines de Naïka, de cristaux de très grande taille. Avis aux spéléologues donc, prenez garde de ne pas descendre trop profondément. Et l'on poursuit notre safari photo spécial dino avec un monument du cinéma, j'ai nommé Godzilla. Tout commence en 1953, année où sort le film Le Monstre des Temps Perdus, adapté de la nouvelle Corne de Brume de Ray Bradbury. C'est le tout premier film de science-fiction à représenter les dangers potentiels des essais nucléaires. Le monstre géant du film, Rhédosaurus, est une créature préhistorique libérée de la glace qui la retenait prisonnière par des essais nucléaires menés en Arctique. Le film est très apprécié par le producteur japonais Tomoyuki Tanaka qui s'en inspire. L'année suivante sort Godzilla ou Gojira en japonais, des mots Gorira et Kijira, gorille et baleine. Le monstre doit son existence à une mutation génétique causée par les radiations nucléaires. Gigantesque et effrayant, il crache un feu radioactif qui détruit tout sur son passage. Son arrivée sur les côtes japonaises crée un mouvement de panique bien compréhensible. C'est une invention scientifique qui permettra de le mettre hors d'état de nuire. Celle d'une machine capable de retirer l'oxygène de l'eau et donc d'étouffer le monstre. Mais cette machine salvatrice ne risque-t-elle pas d'être utilisée plus tard à d'autres fins bien moins louables ? Ce film a en effet une forte valeur métaphorique. Lorsque Godzilla détruit les villes côtières du Japon, comment ne pas penser à la destruction de Hiroshima et Nagasaki ? la réflexion sur les dangers du nucléaire et sur l'utilisation par l'armée de découvertes scientifiques prend tout son sens moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et en plein boom, si j'ose dire, du nucléaire. Mais la remise en question et la réflexion, ce n'est pas trop la tasse de thé des producteurs américains qui reprennent le filon Godzilla en 1956. La version originale est amputée des premières scènes et le message anti-nucléaire très, très atténué. On enlève une ou deux intrigues secondaires, on rajoute un personnage bien américain et on double les dialogues en anglais. Et voilà, la soupe est prête. Le résultat est un simple film de monstres où l'on peut voir le terrifiant Godzilla détruire la ville et s'effrayer sans trop se chauffer le cerveau. Même si ça peut être sympa, quel dommage d'avoir ainsi perdu de vue le message d'origine. Et les dizaines de remakes qui ont été faits depuis n'ont pas vraiment fait mieux, même si l'on peut noter de remarquables progrès en termes d'effets spéciaux. Le film Godzilla, sorti en 1998, sera d'ailleurs le premier à représenter la bête en image de synthèse. Bref, si les reprises sont parfois sympathiques, je n'ai qu'un conseil, retournez aux sources. Et avant de poursuivre, on s'écoute un petit bout de la BO du Godzilla de 1954. Terriens, terriennes et autres formes de vie, sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Notre aventure du jour nous fait côtoyer des créatures majestueuses et un poil terrifiantes, les dinosaures. Et on continue notre petit tour chez les dinos par un film culte, Jurassic Park. Réalisé en 1993 par Steven Spielberg, qui s'entoure des meilleurs pour créer les effets spéciaux de son film, le premier volet de cette trilogie raconte l'histoire d'un parc d'attractions sur les dinosaures, situé sur une île lointaine. John Hammond, le millionnaire à l'origine du projet, a réussi à extraire de l'ADN de dinosaures d'insectes préhistoriques piégés dans l'ambre. Grâce à cela, son équipe de scientifiques parvient à cloner plusieurs espèces, des pacifiques stégosaures ou brachiosaures aux effrayants tyrannosaures et vélociraptors. Hammond fait venir une petite équipe de scientifiques qui va avoir droit à une visite en avant-première. Il invite également ses petits-enfants à découvrir les merveilles de Jurassic Park. Mais un employé sabote délibérément les installations afin de dérober de précieux embryons de dinos qu'il va pouvoir revendre à prix d'or. Ce geste inconscient laisse le parc sans aucune sécurité et les attractions deviennent vite des prédateurs, tandis que les visiteurs tentent de ne pas se transformer en proie. Les effets spéciaux sont un savant mélange d'images numériques et de créatures animatroniques animées par GoMotion, un processus qui crée une impression de mouvement à partir d'objets immobiles. Le tout est tellement spectaculaire à l'époque que le film devient un véritable succès au box-office. Deux suites viendront compléter ce premier opus, dont Le Monde Perdu, Jurassic Park, réalisé également par Spielberg en 1997. 4 ans ont passé. On pensait le projet Jurassic Park abandonné depuis la tragédie qui s'y était déroulée. Mais si, sur l'île principale du parc, les dinosaures sont tous morts, en revanche, sur une île secondaire, sorte d'arrière-boutique du parc, ils sont encore bien vivants. Et en 4 ans de liberté totale, ils ont pullulé. Hammond est convaincu qu'il faut préserver leur milieu, mais il pressent que son projet pourrait être utilisé à des fins commerciales, ce qui mettrait en péril dinosaures et humains. Il demande donc au professeur Ian Malcolm de se rendre sur place pour étudier les différentes espèces présentes, dans l'espoir de créer une sorte de réserve naturelle protégée. D'abord très réticent, Malcolm, qui a déjà fait l'expérience du parc dans le premier film, se laisse finalement convaincre quand il apprend que sa petite amie se trouve déjà sur l'île. Il la rejoint et tandis qu'elle s'enthousiasme face à ce monde perdu, il tente de la prévenir du danger.
C'est pas génial !
Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Et ensuite il y a des cris et des... Sauf qui peut.
Mais qu'est-ce que c'était ?
Courez. Aussi vite que vous pourrez.
Envoyez-moi des secours, immédiatement !
Sortir des dinosaures de cette île est la pire des idées dans l'histoire des mauvaises idées.
Un danger bien réel que la seconde équipe présente sur place ne va faire qu'accentuer. Celle-ci n'est pas constituée de scientifiques, mais de chasseurs et d'investisseurs, désireux de capturer un dinosaure pour en faire l'attraction principale d'un parc. Mais faire venir le touriste sur une île lointaine n'est pas très pratique. Ça restreint l'activité au tourisme de luxe. C'est le tourisme de masse que visent ces investisseurs. Et pourquoi s'embêter à faire venir les touristes aux dinosaures quand le dinosaure peut venir aux touristes? Ils capturent donc un bébé T-Rex et sa maman et les ramènent en Amérique. Pourquoi me direz-vous avoir choisi un tyrannosaure aux dents longues et pas un sympathique herbivore comme le stégosaure ou le diplodocus par exemple? C'est que ce serait nettement moins drôle de les voir se balader dans San Diego. La deuxième partie du film, qui voit le dinosaure créer la panique dans les rues de la ville, contient d'ailleurs des hommages à des films cultes tels que Godzilla ou King Kong. Vous n'aviez pas remarqué que le T-Rex se grattait la tête ? Résume. Pour admirer des dinosaures, on peut, au choix, partir en exploration dans les coins les plus reculés de la planète, voir si une grosse bête préhistorique n'aurait pas survécu. C'est la version à l'ancienne. On peut aussi se la jouer plus moderne et utiliser la science, un petit essai nucléaire ou un clonage à partir d'ADN reconstitué, et voilà un beau dino tout neuf. Mais il existe une autre solution. Voyager dans le temps pour revenir à l'époque des dinosaures. C'est vers cette troisième option que nos deux dernières références s'orientent. On commence avec Nick Cutter et les Portes du Temps, aussi nommé Primeval, ou bien encore Les Portes du Temps, une nouvelle ère, ou encore Primeval, les Portes du Temps. Les créateurs ont eu un peu de mal à se mettre d'accord sur le titre, on dirait. Cette série britannique, créée par Adrian Hodge et Tim Haines, est diffusée en France depuis 2007, raconte comment des créatures préhistoriques apparaissent soudainement dans toute l'Angleterre. Ce phénomène est causé par des anomalies dans le tissu espace-temps, qui ouvrent des sortes de portes temporelles, rendant possible le passage d'une époque à une autre. L'originalité de la série est là. Ce ne sont pas les hommes qui remontent le temps pour aller voir les dinosaures, mais les dinosaures qui empruntent ces passages pour venir nous dire un petit coucou. Et leur visite sème un tout petit peu la panique. Du coup, une équipe de chercheurs, menée par le paléontologue Nick Cutter, sera chargée de surveiller et d'étudier ces anomalies spatio-temporelles afin d'éviter les dégâts. Les choses se compliquent pour Nick lorsqu'il trouve dans l'une de ces anomalies des traces de son épouse Hélène, qu'il croyait décédée. Tout se complique encore plus à la deuxième saison quand, de retour d'une de ces anomalies qu'il a menée dans le Permien, Nick Cutter se rend compte que le présent a été modifié par son action dans le passé. Et à la troisième saison, Hélène Cutter décide carrément de détruire l'humanité à sa source pour changer l'avenir et assassine son mari au passage. On peut dire que les scénaristes de cette série aiment quand ça se complique. La série est sympathique, les personnages attachants, et on peut dire qu'il y a de l'action. Mais gérer l'histoire des dinosaures, du voyage dans le temps et de l'épouse psychopathe, ça fait peut-être un peu beaucoup pour le spectateur, qui n'a pas compris de toute façon quel était le titre de la série. Continue avec les dinos sur petit écran et une série américaine créée par Kelly Marcel et Craig Silverstein, produite par Steven Spielberg et diffusée en France depuis 2012, Terra Nova. En 2149, la Terre est exsangue. La pollution poussée à son paroxysme est telle que les humains ne peuvent survivre sans respirateurs artificiels. C'est toute la vie sur Terre qui est menacée d'extinction. Par hasard, des scientifiques découvrent une porte spatio-temporelle qui mène 85 millions d'années dans le passé, à l'époque du Crétacé. Les scénaristes choisissent de s'éviter les complications à la Nick Cutter et placent cette époque dans une chronologie alternative, évitant ainsi les paradoxes temporels et les prises de tête. C'est donc une nouvelle chance qui s'offre à l'humanité. Terra Nova, pour ceux qui préfèrent les T-Rex, à la pollution. Le passage dans le Crétacé offre en effet une opportunité de repartir à zéro, à des colons triés sur le volet. Mais si l'air est pur, la vie n'est pas de tout repos, et pas seulement à cause des dinosaures. Profitez des problèmes de la famille Shannon, qui va devoir s'adapter à ce nouveau monde et à sa faune encombrante et dangereuse. Profitez des effets spéciaux à gogo sur lesquels Spielberg, sans doute en manque depuis Jurassic Park, s'est bien fait plaisir. Profitez bien, mais profitez vite, car la série s'arrête à la fin de la saison 1. Le budget colossal des 13 premiers épisodes a eu raison du réseau Fox, qui diffusait la série aux États-Unis et qui abandonne définitivement le projet d'une saison 2. Dommage. D'autant plus que le dernier épisode se termine sans avoir apporté de réponse aux énigmes et mystères, semés de ci de là par des scénaristes qui n'avaient pas vu venir l'annulation de la saison 2. Plus cruel, plus dangereux et sans pitié que les T-Rex, les producteurs et les chaînes de télé. Thank you. toujours sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Après ce petit tour à la poursuite des dinosaures, voilà venu le temps de notre rubrique consacrée au cinéma pour jouvencelles, aux navets manichéens et bien-pensants, aux accents patriotiques douteux, le film de Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Ce mois-ci, notre téléfilm de pucelle est un monument de la pucellitude. On y trouve des dinosaures qui parlent, qui portent des lunettes et font copain-copain avec les humains, à tel point qu'on pourrait croire l'histoire sponsorisée par les créationnistes. Il s'agit de...
Dinotopia, un continent oublié où les hommes et les dinosaures vivent hors du temps, en parfaite harmonie. Découvrez un univers fantastique, un monde fascinant comme vous n'en avez jamais vu.
C'est magnifique.
C'est presque trop facile en fait. Deux jeunes hommes échoués sur une île y découvrent un monde hors du temps où dinosaures et humains vivent ensemble. À Dinotopia, on ne se dit pas bonjour le matin, mais paix de l'âme, ce à quoi l'autre répond « toute harmonie ». Chaque être humain se voit doté d'une âme sœur saurienne dont il va devoir prendre soin. Et que c'est mignon un bébé dinosaure qui fait ses premiers pas. À Dinotopia, tout le monde est végétarien. Les panneaux sont en anglais et en saurien. Une langue dinosaure en joli petit signe de patte. Et comme il reste tout de même de vilains carnivores parmi les dinos, on les tient à distance grâce à des pierres magiques. Bon, en fait, Dinotopia, c'est comme ces chocolats enrobés de chocolat fourré au chocolat. C'est trop, tellement trop que ça en devient écœurant. Et on a beau chercher la liqueur qui corserait un peu le goût, on ne la trouve jamais. Parce qu'à Dinotopia, on ne dit pas de gros mots et quand on s'embrasse, on ne met pas la langue. En fait, c'est un peu chiant la vie à Dinotopia. Et quand les roches solaires, ces fameuses pierres magiques qui éloignent les T-Rex, tombent en panne, on a un peu soulagé qu'il se passe enfin quelque chose. Je suis donc fière aujourd'hui de décerner à Dinotopia le prix du plus grand film de pucelle de tous les temps. Un film de pucelle et une musique de pucelle, avouez que c'est cohérent. Tout le mérite de Dinotopia et de tant d'autres téléfilms du même genre que l'on nous resserre à Noël ou pendant les grandes vacances, c'est que ça ne va pas nous empêcher de dormir la nuit. Et c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que tout l'intérêt des films de dinosaures, comme des films de monstres en général, c'est de nous faire peur. Et il faut avouer qu'on aime bien ça. Le mot « dinosaure » vient du grec « dinos »,« terrible », et « sauros », »,« lézard ». Tremblez donc, pauvres petits humains, face au terrible lézard. Ça y est, vous avez peur? Ça tombe bien, c'est le moment de passer à la dernière rubrique de notre émission, celle des conseils. Comment survivre au Jurassique ou au Crétacé? Comment éviter de devenir le goûter d'un T-Rex ou de se faire piétiner par un Diplodocus? Quel goût à la cuisse de dino grillé? Toutes les réponses, toutes les astuces sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. On commence par quelques règles de sécurité de base. Vous pouvez prendre des notes. Si vous cherchez une destination sympa pour un petit week-end nature en famille, je ne sais pas, essayez la Corse ou l'île de Ré. Si vous voulez voir des animaux, allez au zoo. Et si les enfants vous tannent pour que vous les ameniez dans un parc d'attractions, pensez à Euro Disney ou au parc Astérix. Bref, évitez les séjours touristiques sur des îles peuplées de dinosaures affamés. Mais si vous êtes des petits casse-cou intrépides et que ma mise en garde n'a fait que vous rendre plus curieux et plus téméraire, écoutez au moins quelques conseils avant de vous lancer dans l'aventure. Si vous devez échapper à un vélociraptor, à un mayungasaurus ou à n'importe quel prédateur du même genre, prenez exemple sur nos ancêtres mammifères du Crétacé. Ces petites bêtes, pas si bêtes que ça d'ailleurs, s'enterraient ou grimpaient aux arbres. Au Cénozoïque, l'expansion des mammifères vit en effet l'apparition de nombreuses espèces fouisseuses et grimpantes, dont on a retrouvé beaucoup de fossiles, alors que les paléontologues n'ont pas retrouvé d'équivalent chez les dinosaures. Pour sauver votre vie et ne pas finir en tartare entre les crocs d'un gros dino, adoptez donc la tactique du mammifère. Vous aurez peut-être un peu de mal à vous glisser dans un terrier de lapin préhistorique, alors prenez un peu de hauteur et grimpez. Bien sûr, si un ptérodactyle se pointe, je ne vous cache pas que ça pue un peu pour vos miches. Essayez toujours de lui demander s'il est un oiseau ou un reptile. Avec un peu de chance, ça l'occupera un moment. Mais que faire face au roi de la jungle du Jurassique? J'ai nommé Tyrannosaurus Rex. On ne l'appelle pas T-Rex pour rien. Sa réputation le précède. Et vous feriez bien d'avoir un peu la frousse en pensant à ses dents de 18 cm de long, crénelées comme des couteaux à viande. Mais ce monstre de dino fait l'objet d'un débat. Le T-Rex était-il un prédateur ou bien un charognard? Si l'on en croit Jack Horner, un paléontologue qui a notamment travaillé avec Steven Spielberg sur son film Jurassic Park, le tyrannosaure se nourrissait des carcasses d'animaux morts. Ses bras un peu trop courts pour un prédateur? Son odorat très développé comme celui du vautour, ses dents capables de broyer des os et sa lenteur à se déplacer plaideraient en faveur de la thèse du charognard. Mais d'autres paléontologues contestent cette théorie, avançant d'autres preuves qui feraient du T-Rex un prédateur. William Abler, qui a beaucoup étudié les dents des dinosaures, émet d'ailleurs l'hypothèse que le tyrannosaure possédait une salive infectieuse qu'il utilisait pour tuer sa proie, un peu comme le dragon de Komodo. Une simple morsure, et vu la taille des dents simples, c'est vite dit, et l'on était cuit. Donc, si vous vous retrouvez face à un T-Rex, expliquez-lui que vous êtes un partisan de la théorie de Horner, offrez-lui un de ses ouvrages et utilisez toute votre rhétorique pour le convaincre. Pour terminer, si vous vous retrouvez coincé au Jurassique ou au Crétacé, il vous faudra bien manger. Si le régime fougère ne vous convient pas, faites-vous prédateur à votre tour. Choisissez une proie pas très balèze qui ne se retournera pas contre vous. Un anchiornis, par exemple, qui faisait la taille d'une petite caille et qui devait probablement en avoir le goût. Ou bien un oviraptor, genre de gros poulet couveur et parfois mangeur d'œufs. Une bonne grillade, quelques herbes aromatiques et si l'on n'a rien contre le sucré salé, quelques baies juteuses et le repas est prêt. Soyez tout de même prévenus, selon certains paléontologues, les dinosaures pouvaient avoir des plumes. On n'oubliera donc pas de plumer sa caille jurassique avant de la passer au grill. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir ou revoir les plus beaux films de dinosaures. Aujourd'hui, avec la 3D, certains vous donnent l'impression que vous allez réellement finir dans la gueule du T-Rex, charognard ou pas. Mais n'oubliez pas les vieux films avec leurs dinosaures en mousse et papier mâché. Même s'ils ne vous font pas vraiment peur, ils ont leur charme. En attendant de vous retrouver, je vous dis tous à vos lecteurs DVD. L'heure fantastique revient en février et passe du Jurassique au 21e siècle, du Diplodocus à la connexion Wi-Fi, puisque notre thème sera les ordinateurs. En attendant, restez prudents, car vous le savez bien, ils sont parmi nous.